Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors ça nous fait bien plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter d'astronomie avec nous. Aujourd'hui on est trois dans le studio, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour à tous,
bonjour,
bienvenue.
Fred, alors, Pierrick et les auditeurs.
Et auditrices. Ouais. Et c'est le 91e épisode de l'émission. Alors, on vous rappelle toujours le podcast hein, sur le site de RDWA, rdwa.fr, vous allez dans les émissions thématiques. Là, vous trouvez toutes les émissions depuis le début, toujours illustrées hein, par les photos de Axel et Rémi, photos du ciel, qui vous montrent un peu ce qu'on peut observer, ce qu'on peut prendre en photo derrière un télescope, en fait. On vous rappelle aussi le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com. Ce mail, il peut vous servir à plusieurs choses. D'une part, à nous faire des retours sur ce que vous entendez. D'autre part, si vous souhaitez venir participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Oeil pour nous parler de votre rapport au ciel, vous êtes les bienvenus. Et c'est la même adresse qui va vous servir si vous voulez vous inscrire au petit stage qu'on organise le vendredi 18 juillet à Marignac, à la base de loisirs. Donc ce sera la veille en fait de Marignac Fête les Étoiles, grande soirée publique le 19 juillet cette année. Et si vous voulez venir participer à ce petit stage qui sera donc sur inscription, vous nous envoyez un message à ce mail astro-rdwa@protonmail.com. Et là, c'est sur inscription uniquement pour apprendre à utiliser un télescope, c'est-à-dire apprendre à le manipuler et aussi apprendre à savoir quoi pointer. Voilà pour cette petite introduction. Alors, le sommaire de ce 91e épisode. D'abord, ce sera le ciel ce soir. Ensuite, quelques actus du monde de l'astronomie. Et puis, après la pause musicale, ce sera la rubrique à braque. Axel, tu nous parleras de l'atmosphère terrestre.
Exactement.
Et on terminera l'émission avec une nouvelle rubrique qui s'appelle la chronique fantastique, wow. où en fait, à l'occasion, on vous parlera d'une œuvre de fiction en rapport avec l'astronomie. Donc voilà, ça peut être un livre de science-fiction, ça peut être un film, enfin ce qui nous inspirera. Et là, cette semaine, je vous parlerai d'un roman de Geoffrey Landis qui s'appelle Le Sultan des Nuages. Voilà le programme. On va commencer avec le ciel ce soir, et cette semaine, c'est toi, Axel, qui nous révèle les beautés célestes.
Oui, avec le ciel de ce quasi-solstice, de ce milieu de mois de juin, puisque, oui, c'est ça, si vous nous écoutez lors de la première diffusion, le solstice approche. Et si vous nous écoutez lors de notre deuxième diffusion, nous sommes donc le 22 juin, et le solstice est passé, c'était hier. Et donc, ce ciel du milieu de mois de juin, eh bien, on a la grande plongée, je l'appelle comme ça, la grande plongée de l'ours, puisque la grande ours plonge vers l'horizon avec son manche, avec le manche de la casserole bien dressé au-dessus, et le museau qui va frôler l'horizon nord-ouest. Ouais. C'est ça. À l'opposé, Cassiopée a sa forme de M quand arrive le milieu de la nuit à peu près, en début de nuit c'est encore un petit peu un 3 et ça devient M plus la nuit avance. Ces constellations, Cassiopée, la Grande Ourse que je rappelle, on peut voir toute l'année, pas toujours dans la même disposition mais toujours dans la même direction, vers l'étoile polaire, et donc vers le nord. On a la belle, une des plus belles étoiles, en tout cas une des plus brillantes des étoiles, qui se lève en ce moment avec la nuit et qui n'est rien d'autre qu'Antarès, l'étoile principale de la constellation du Scorpion, qui elle est visible bien au sud. Il faut avoir un horizon sud dégagé pour la voir, ou alors, pareil, il faut attendre un peu que la nuit avance. En parlant d'Antarès, tu peux parler de son objet qui lui a valu son nom, Arès, alias Mars.
Arès, Mars, ouais. Ouais.
Tu voulais parler vite fait de Mars.
Oui, je voulais parler vite fait de Mars.
Qui est la seule planète qu'on voit en ce moment.
C'est ça, avec ouais. Vénus.
Vénus à partir de 3h du matin. Ouais. Ouais. De Saturne, je voulais dire, à partir de 3h du matin.
Saturne à 3h du matin et Vénus dans les lueurs de l'aube.
Oui, c'est ça. Et Mars, par contre.
Et Mars, en fait, se trouve maintenant dans le Lion, juste à côté de Régulus, donc l'étoile la plus brillante du Lion. Et en particulier le 17 juin, elles seront vraiment côte à côte, presque comme une étoile double. Donc, d'une part, ce sera facile de la repérer. Hein, Mars bien orangé, Régulus brillante, plutôt un éclat blanchâtre. Mmh. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'un soir sur l'autre, on peut se servir de Régulus comme repère pour voir que Mars, elle bouge même d'un jour sur l'autre. En fait.
Ah oui.
Vraiment repérer. On en parlait dans l'émission, hein, pour ceux qui suivent un peu. Il n'y a pas si longtemps, elle était encore dans les Gémeaux. Ensuite, elle est passée dans le Cancer. Et là, dans la dernière émission, on a dit qu'elle approchait de Régulus. Et ben là, ça y est, elle y est. Donc, elle se déplace quand même assez rapidement sur le fond du ciel. Alors, bien sûr, sur une nuit, on ne le perçoit pas. Mais là, vous avez la chance de pouvoir utiliser cette étoile bien brillante Régulus pour observer d'une nuit sur l'autre le déplacement de Mars sur le fond du ciel, qui justifie son nom de planète astre errant.
Oui.
Voilà.
Tout ça, ça se passe à l'ouest, à la tombée de la nuit, donc en dessous de la casserole de la Grande Ourse. Et ça se couche vers une heure, entre une heure et demie, ça disparaît derrière l'horizon ouest. Mars et Régulus et tout le lion. À sa gauche, si on décale le regard vers le sud, on tombera sur une autre étoile assez brillante, à peu près de même brillance, peut-être un peu plus quand même. Et c'est l'Épi, alias Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge, dans ces constellations du zodiaque qui rasent l'horizon en ce moment, d'ouest en est, le lion, la Vierge, la Balance, et comme je disais, le scorpion qui se lève. Et puis toujours dans ce secteur, presque au zénith, non, mais quand même bien haute dans le ciel en ce moment, à la tombée de la nuit, la première qui apparaît, c'est la belle Arcturus, la gardienne de l'ours, celle qui suit la queue de la Grande Ourse, ouais. Et qui fait partie de la constellation du Bouvier. Arcturus, ouais, en ce moment, c'est la première que les gens repèrent, j'ai remarqué. On dit, on voit une étoile.
Ah, oui.
Ouais, c'est Arcturus en général. À moins qu'il regarde complètement de l'autre côté, dans les lueurs du couchant, on peut apercevoir Capella encore un petit peu.
Ah ouais.
Jupiter qui est à peine visible aussi, si on est bien haut et avec un très bon horizon ouest. On verra Jupiter et Capella se coucher. Mais c'est vraiment dans les lueurs, c'est dans l'orangé du coucher du soleil. Et
ça dure une demi-heure.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
C'est ça. Impossible à voir au télescope, beaucoup trop bas, beaucoup trop dans l'atmosphère dense, ouais. mais visible à l'œil nu quand même. Ouais. Et de l'autre côté, notre fameux triangle d'été, dont on vous parle finalement toute l'année, en fait. Ouais.
Quasiment.
Le triangle d'été, avec Vega, avec Deneb et Altaïr. Il faut attendre un petit peu pour qu'Altaïr se lève, mais Vega et Deneb, elles sont bien levées quand la nuit tombe à l'horizon est. Vega dans la lyre et Deneb dans le cygne. Et puis si vous nous écoutez à la deuxième diffusion de cette émission, eh bien on se sera éloigné un petit peu de la pleine lune, et donc vous pourrez voir dans ce secteur dans lequel se trouve Deneb, la Voie lactée, cette grande arche qui nous surplombe et qui se lève petit à petit, voilà, qui est visible presque dès le coucher du soleil, mais vers minuit, on peut bien la voir, ouais.
Ah ouais.
À condition qu'il n'y ait pas de lune.
Eh oui.
Voilà, que vous dire de plus ? Oui, eh ben on peut passer aux actus.
On peut passer aux actus.
C'est bon. Mm-hmm. Mais je vais faire le lien avec le ciel du soir, en tout cas du soir dans lequel on enregistre nous. Et je vous parlais du ciel, il faut qu'il soit bon pour voir la Voie lactée, il faut qu'il n'y ait pas de lune, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de particules dans l'atmosphère, de particules telles que des cendres aux méga-feux qui ont lieu actuellement au Canada. Et si vous connaissez des proches canadiens qui en pâtissent, eh bien, embrassez-les fort, parce que c'est quelques milliers, dizaines de milliers de gens qui ont été évacués pour fuir les incendies. Il y a plusieurs foyers, il y a plusieurs dizaines de foyers. Et on parle de plus de 2 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Et ces immenses panaches de fumée, trimballés par le jet stream, qui est un courant d'air en altitude, d'ouest en est, ont gagné la France et nous ont survolé. Pendant quelques jours, là. Normalement, si tout s'est bien passé au moment où vous nous écoutez, ils se sont dissipés. Peut-être même ont-ils laissé place au sable, aux nuages de sable du Sahara, donc là, venant plutôt d'un vent du sud. J'ai l'impression de faire la météo, là.
Oui, c'est lié, ça.
Ouais,
c'est
ouais.
Lié.
Mais en tout cas, voilà, si vous avez remarqué dans cette première semaine de juin, un ciel un peu étrange, un ciel blanc, opaque, mais lumineux quand même, je parle de jours. Voilé,
ouais. Oui, même en journée. Ouais,
ouais. Jours. Il y a eu des jours là où le Glandas était quasiment invisible, surtout au matin. Eh bien, ce n'était pas des nuages à proprement parler, c'était bien ces fumées canadiennes qui nous ont été transportées par le vent. Et je sais que ça étonne beaucoup de monde. Il y en a qui, j'ai dit ça, qui n'ont pas cru, mais je rappelle qu'on vit sur une petite planète, hein, qu'avec une petite voiture en roulant 80 à l'heure, en deux jours, on peut être au bout de l'Europe. Eh bien, à vol d'oiseau, on peut traverser l'Atlantique assez rapidement, poussé par les vents.
Pour ceux qui étaient là à On the Moon Again, quand on a observé la Lune dimanche dernier, sur la place de la cathédrale, la Lune a mis beaucoup de temps à devenir regardable, ouais, visible, si j'ai envie de dire, ouais, visible correctement. Ouais, c'était très long avant qu'elle ne monte assez haut dans le ciel pour qu'elle s'échappe un peu des cendres, ou qu'on en voit, qu'il y en ait moins entre le...
Ouais, qu'elle perce aussi un peu plus avec sa lumière, ouais, qu'elle gagne en luminosité.
En luminosité, et là ça devenait mieux, mais effectivement, pour les objets sombres qui sont un peu bas, ça va être compliqué de la regarder.
Oui.
Mais justement, ça tombe bien, on voulait aussi vous faire un petit retour sur cet événement On the Moon Again, qu'on a organisé. Donc c'était, on avait annoncé 6, 7 et 8 juin. Finalement, le 6 et le 7, ça n'a pas été possible parce que le ciel était trop nuageux. On était présent le 6, mais on a, à part un petit peu de soleil, il y a quelques rares personnes qui ont pu le voir. Mais bon, assez vite, on a démonté le matériel parce que ça ne marchait pas. Le 7, on n'est pas venu. Donc finalement, on était là le 8. Et là, on a pu quand même donc, faire déjà des jolies observations du soleil. Il y avait une chouette protubérance.
Oui, en plus, il y avait une belle éruption. Ouais.
Qui était là. Alors après, il y a eu un temps un peu de latence entre le moment où le soleil s'est couché et le moment où la lune est montée. Et justement, ce temps a été rallongé parce que ce dont tu viens de parler, Pierrick, c'est ces fumées en fait, qui rendaient la lune vraiment très, très faible à l'horizon. Il a fallu attendre un petit peu, mais à partir de 21h, on a pu commencer à montrer la lune jusqu'à à peu près 22h30. Et voilà, donc on veut saluer et remercier toutes les personnes qui se sont arrêtées pour observer et pour discuter avec nous d'astronomie. Ouais. Voilà, cette occasion.
Un bon moment de partage et de plaisir, en tout cas, à refaire.
Oui, qu'on réitérera probablement l'année prochaine, mais probablement pas aux dates officielles qui ont déjà été annoncées. C'est au cœur du mois de juillet. Et là, sera compliqué pour moi.
Ouais,
bon, et puis, on trouvera un moment.
On trouvera un moment et on choisira peut-être aussi une autre phase de la Lune, comme on en parlait entre nous.
Une Lune un peu plus.
Une demi-Lune qui se lève plus tôt et qui est visible. Voilà, plus... Comme ça avait été le cas il y a deux ou trois ans, je ne me souviens plus. Ouais. Mais il y avait, voilà. Bon, on vous en reparlera à l'occasion. En tout cas, merci à vous d'être venu voir On the Moon Again. Ouais. On va continuer avec les actus, Pierrick.
Ouais, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'astronomie ces derniers temps ? Alors, il y a eu un alunissage raté d'un module japonais qui s'appelle Résilience, qui a été envoyé par une boîte privée qui s'appelle iSpace. Donc, ils ont envoyé une sonde sur la Lune, mais cette sonde s'est un peu crashée finalement. En fait, la télémétrie indiquait à 52 mètres de hauteur une vitesse de 180 km/h. Donc en fait, c'est très rapide et finalement, elle s'est crashée. Donc ils étaient vraiment pas loin de réussir. Donc c'est dommage pour eux. C'est leur deuxième tentative à iSpace. Donc encore un échec. Apparemment, le télémètre laser n'a pas très bien marché. Du coup, les données étaient mauvaises et du coup,
les phases ne sont pas passées au bon moment et tout ça. Quoi.
Et voilà. Et du coup, le crash. Et c'est dommage pour eux, ils y passent beaucoup de temps. Et bon, c'est comme ça, l'espace, c'est dur.
Bon, mais ils ont fait un nouveau cratère, c'est déjà ça.
Sûrement, ouais.
Ils ont laissé une trace.
En tout cas, sur 6 tentatives privées d'alunissage, donc atterrir sur la Lune, hein, alunissage, il y a eu une réussite. Donc voilà. Et toutes ces tentatives privées, en fait, ça fait un peu partie d'un petit programme de la NASA qui vise à étudier la Lune et d'essayer de réduire les coûts pour envoyer des missions sur la Lune avec des entreprises privées, avec des nouvelles idées, des nouvelles fusées. Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est encore en phase de test.
On peut le voir aussi comme encore un début de privatisation du spatial. Ouais. parce qu'une entreprise privée a quand même pour but de faire du profit. Donc, si elle investit dans une mission, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a forcément l'idée derrière d'un retour sur investissement. Oui. On est quand même dans une logique capitaliste, il ne faut pas perdre ça de vue.
C'est sûr. Pour l'instant, il n'y a pas d'exploitation, mais on est sur du long terme en tout cas. S'il y a une exploitation, ce ne sera pas tout de suite. La deuxième info, c'est que sur la station spatiale chinoise qui s'appelle Tiangong, ils ont détecté une nouvelle bactérie qui s'appelle Niala Tiangongiensis, qui a été découverte dans la station chinoise. Donc c'est une bactérie qui provient de la Terre, qui a été amenée dans la station, mais qui s'est modifiée.
Ouais, qui a muté.
Qui a muté dans la station. Okay. Et alors, elle résiste mieux aux agressions liées à des dérives de l'oxygène, enfin des dérivés de molécules d'oxygène. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est qu'elle a réussi à se protéger des radiations en formant un espèce de biofilm autour d'elle, une sorte de protection, de carapace, pour résister aux radiations solaires terribles. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir ça.
Bah, c'est super intéressant et parce que ça nous montre ce qui est possible et ça illustre aussi un des dangers que véhicule l'exploration spatiale, qui est de polluer les corps qu'on vient explorer. Le plus évident, c'est la Lune. Mais je veux dire, si on ramène forcément avec nous des bactéries, des choses, c'est obligatoire, en fait, des microbes, tout un tas de choses. Donc ensuite, ces corps vivants mutent à cause des radiations, en fait, solaires. Et ce qu'elles peuvent donner, on n'en a aucune idée. Donc en fait, il y a toujours ce danger, en fait, même si on envoie une sonde sans humain à l'intérieur, bah, elle a été construite sur Terre, donc elle emmène avec elle forcément des choses.
Même avec tous les soins qui sont faits pour pas...
Ils cherchent à l'éviter, mais la possibilité est clairement... Enfin, on ne peut pas éliminer tout, c'est sûr. Donc ça veut dire, ne serait-ce que quand elle part dans l'atmosphère... Donc il y a toujours ce risque, en fait, de ramener des choses dans l'espace qui vont donner autre chose, puisque forcément ça mute et dont on n'a aucune idée. Donc ça, c'est quand même un truc à garder en tête.
Ouais, c'est ça, il y a une évolution dans le milieu qui est incontrôlée. Mais bon, c'est peut-être la semence d'une nouvelle vie.
On va le voir comme on veut. Ouais. Parce qu'il y a aussi des scénarios, ils l'ont envisagé, où tu emmènes un virus ou un microbe, en fait, dans l'espace, il mute, il redescend, il a changé, il est devenu autre chose. Tu sais pas, en fait.
Mais déjà sur Terre...
C'est d'ailleurs utilisé pour ça, l'espace, entre autres. Ils envoient des virus qu'on connaît ici, là-haut, pour qu'ils mutent plus vite qu'ici. Et pour voir vers quoi ils peuvent
évoluer
et se préparer avant même qu'ils mutent ici, voir toutes les variantes qui peuvent sortir et être prêts.
Par exemple.
C'est une des applications de l'ISS. Ouais.
Mmh. En tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a eu d'autres avant, notamment en 2011, sur un filtre de la Station Spatiale Internationale, cette fois.
Ah oui.
Il y a une Solilacillus calamii qui, elle, a réussi à survivre au vide. Alors, j'étais bluffé. En tout cas, voilà, toutes ces petites bactéries, elles vivent bien, elles s'en sortent bien.
Et tardigrades aussi, qui peuvent supporter le vide.
Gros,
Alors eux, ils s'endorment.
Oui,
c'est pas le même
stase,
délire.
Ouais.
C'est
vrai. Mais ils arrivent, mais d'une façon ou ils survivent quand même. Parce que dès qu'ils reviennent dans des conditions plus favorables, en fait, ils se réveillent.
C'est parti.
J'imaginais, si on envoie une sonde qui un jour arrive dans une nouvelle planète, avec des habitants par exemple, et que si cette sonde est contaminée, là c'est vraiment problématique, quoi. Ce qu'on parlait juste avant, ça peut...
Complètement.
Ça a déjà été le cas, la découverte des Amériques.
C'est ce que j'ai dit.
En Australie aussi.
90% de la population amérindienne est éradiquée par les maladies quand même.
Ça ouais, en Australie aussi, il y a eu plein de choses comme ça.
Et les 10% restants... par le fusil.
Alors, on reste avec la Chine qui a lancé Taïwan 2. Taïwan 2. Alors, c'est une mission très ambitieuse pour apporter des échantillons de deux choses. D'un astéroïde qui s'appelle Kamo Oaleva et de la comète 311P Pan-STARRS. Donc cette mission dure 10 ans. Avec, donc elle va aller voir son premier... Elle va le faire en deux phases. Elle va d'abord aller voir l'astéroïde, qui est un quasi-satellite de la Terre. Alors, il n'orbite pas autour de la Terre, mais sur la même orbite autour du Soleil. Donc il est le même à peu près qu'à la naissance du système solaire, il y a quelques 4 milliards d'années. Donc voilà, il se demande d'où il vient. Peut-être qu'il vient de la Lune. Il a été projeté en même temps que a priori la Lune se serait créée avec un astéroïde qui aurait percuté la Terre et qui aurait éjecté un gros morceau qui serait devenu la Lune et aussi d'autres trucs. Donc voilà, ça serait intéressant d'aller voir ce bout de caillou perdu, d'aller voir de quoi il est composé. Alors c'est assez technique, allez le voir quand même, parce qu'il a une taille entre 40 et 100 mètres de diamètre. Moi, j'étais surpris de la marge d'erreur, avec tous les instruments qu'on a maintenant, de ne pas réussir à déterminer un diamètre plus précis.
Mais c'est tout petit quand même, mais 40 et 100 mètres.
Ouais, c'est tout petit.
Pour un truc qui orbite peut-être à 1 million de kilomètres ou je ne sais pas où, ça fait un diamètre angulaire quand même.
Oui, c'est ça.
Ouais, sûrement. En tout cas, c'est un objet qui a une faible gravité du coup, qui est tout petit, donc pour aller l'approcher, faut gérer du moteur, comme on dirait. Et en plus, il tourne sur lui-même, en 28 minutes. Donc il tourne très vite. Oui. Donc pour aller l'approcher, c'est pas gagné. Oui. Donc oui, voilà, c'est peut-être un fragment de lune. Et aussi, ça peut être intéressant d'aller voir sa structure, comprendre un peu sa cohésion pour une mission un peu de défense planétaire, pour voir un peu comment on pourrait faire une stratégie de déviation, voir un peu de quoi il est composé et voir ce qu'on peut faire si jamais un jour ça se présente qu'il y ait une collision. Voilà, donc il y a deux méthodes d'interception pour aller le voir, pour prélever entre 100 grammes et 1 kg. La première, c'est le touch and go. Donc là, c'est on s'approche vraiment tout doucement et dès qu'on touche, tac, on remet les gaz et on repart. Et là, on prélève quelques poussières. Et ils ont une deuxième méthode qu'ils vont essayer, c'est de se poser et avec un bras robotique et une foreuse, aller percer dans la roche, aller percer à quelques centimètres pour amener un échantillon plus conséquent. Donc de cette première mission, donc là je parle de l'astéroïde, il y a un retour sur Terre en 2027-2028. Donc la sonde repart en direction de la Terre, largue une capsule contenant l'échantillon. Et cette capsule est rattrapée en vol. Quand elle ouvre ses parachutes, elle est dans l'atmosphère. Et ils projettent de la rattraper en vol avec un hélicoptère pour éviter toute contamination par un atterrissage sur l'eau ou sur la Terre. Donc, ce qui est quand même ambitieux. Ouais. Et après, cette sonde, elle repart en direction donc, du coup, de cette comète dont je parlais, qui se situe dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter, donc. Et voilà, et d'aller la voir. Et là, la mission est de retour vers 2033-2034. Et là, le principal de la mission, c'est d'aller voir l'eau sur cette comète, d'aller voir un peu s'il y a beaucoup de glace, comment elle est composée en eau, parce qu'apparemment, il y a de l'eau. Mais voilà, comment est cette glace d'eau sur cette comète. Et cette mission vient de partir, et pour l'instant, tout se passe bien.
Ok. Eh bien, merci Pierrick. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, c'est un morceau de Alan Parsons Project qui s'appelle Eye in the Sky. Of chances before, but I
so find another fool like before.
Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors après cette petite pause musicale, on va reprendre le déroulé de cet épisode avec la rubrique Abrac. Et là, cette semaine, Axel, tu vas nous parler de l'atmosphère terrestre.
Eh bien oui, sur RDWA, vous connaissez ce jingle du bon air sur RDWA. Eh bien, je vais parler d'air, puisqu'il est assez bon finalement, l'air qu'on respire ici et qu'on écoute sur le 107.5 aussi. Mais c'est quoi en fait cette air? Je vais vous parler de l'atmosphère terrestre, cette fine couche de gaz qui englobe notre planète, enfin qui en fait partie même entièrement. Cet air que nous respirons, il est composé en majeure partie d'azote. Vous le saviez, ça ne vous apprend rien à vous deux, mais peut-être à nos auditeurs et auditrices. Et oui, la plupart de ce qu'on respire, presque 80% de ce qu'on respire, c'est de l'azote, enfin, pour être précis, du diazote. Puis ensuite de l'oxygène. Un peu plus de 20%, pareil c'est du dioxygène mais je rentre pas trop dans les détails, et ensuite de l'argon pour presque 1% de l'air qu'on respire, et la quatrième place c'est le fameux CO2, le dioxyde de carbone, environ 0,04%. Et puis dans les décimales qui restent se cachent encore de nombreux gaz comme l'hélium, le néon, le méthane, etc. C'est donc l'air qu'on respire hein, qui apporte l'oxygène nécessaire à notre bon fonctionnement de nos muscles, de notre cerveau et de plein d'autres choses. Il ne fait pas que ça d'ailleurs. Il filtre le rayonnement UV, tu en as parlé lors de la dernière émission, Fred, le rayonnement ultraviolet, nocif pour nous, pour notre ADN, et pour notre peau. Il est en très grande partie filtré par l'atmosphère. Il maintient aussi la chaleur, cet air, grâce à l'effet de serre. Bénéfique à la base, mais dangereux si exacerbé. Sans lui, les nuits seraient glaciales. Et trop de lui, et c'est les journées qui deviennent infernales. 0,04% de CO2 dans l'air. On sent qu'il suffirait de changer ce chiffre de pas beaucoup. Il suffirait de pas beaucoup plus de CO2 pour changer drastiquement les choses. Alors l'atmosphère, sa partie dense commence dès le sol et s'achève dès la centaine de kilomètres d'altitude. Sachant que le rayon de la Terre, c'est 6000 kilomètres, on comprend bien pourquoi je parlais d'une fine enveloppe de gaz. 100 kilomètres rapporté à 6000, ça fait pas grand-chose. On le voit d'ailleurs sur les images vues depuis l'espace, depuis l'ISS par exemple, quand on voit au lever ou au coucher du soleil, on voit que c'est très fin. tu parlais aussi, Pierre, il y a quelques émissions déjà de la dernière éclipse de lune et qui avait été la Terre avait été prise en photo depuis une sonde lunaire,
oui,
donc une éclipse totale, mais depuis la lune,
ouais.
Et on voyait un tout petit liseré autour de notre planète qui correspond, j'allais dire à l'air qu'on respire, mais même pas, parce que là c'est la totalité, alors que nous on en respire que la couche la plus basse.
Ouais, elle se diffuse, l'atmosphère. Plus on monte, plus elle se diffuse dans l'espace.
Et ouais, en réalité, il n'y a pas de fin nette et précise, pas de frontière stricte entre le ciel et l'espace. La très très haute atmosphère est simplement de moins en moins dense. On parle parfois de la ligne de Kármán, l'altitude retenue par les agences spatiales comme étant l'espace. En vrai, elle est à 100 km d'altitude et elle a été choisie pas complètement arbitrairement, mais parce que c'est à partir de là que la densité de l'air ne permet plus à un appareil de voler par flottaison, on va dire, c'est pas, comme un avion. En réalité, la fin de l'atmosphère, ouais, elle est plutôt variable, très variable même, en fonction de l'activité solaire. Autrement dit, si le soleil nous envoie plus ou moins de matière dans la poire, l'atmosphère peut passer de 300 km à son plus haut point jusqu'à 800 km. En moyenne, elle est à 600 km, cette limite. Bien que variable, et qui marque la fin de la thermosphère et le début de l'exosphère. Thermosphère, exosphère, atmosphère, il serait peut-être temps de voir un peu de vocabulaire. Au sol, l'air qu'on respire finalement est un peu plus haut, là où demeurent les nuages, où vivent les avions, qui ne sont pas l'acronyme de appareil volant imitant l'oiseau naturel, non. La couche la plus basse, la troposphère. Tropos en grec, le changement. Elle représente à elle seule environ 80% de la masse totale de l'atmosphère, la troposphère. Et à noter également qu'elle est plus épaisse à l'équateur qu'au pôle, avec un facteur d'environ 2. C'est 7 km au pôle et 13 à l'équateur. C'est là où il y a beaucoup de convection, beaucoup de transport de chaleur, l'air chaud qui monte du sol, qui se mélange, qui a plus de place, donc s'étend, donc refroidit, donc retombe, et ainsi de suite. Et puis ça fait s'accumuler de la vapeur à certains endroits qui va former des nuages. Tout ça, passe.
Des ouragans.
Au maximum à 15-20 km d'altitude. Ensuite, à partir de la vingtaine de kilomètres, donc, on entre dans la stratosphère, où notre chère couche d'ozone se remet doucement de ses lésions passées. La température moyenne est de 0 degré. Les plus hauts nuages viennent lécher la stratosphère. La prochaine étape, c'est la mésosphère. Méso en grec, c'est la moyenne. La mésosphère, c'est celle où s'illuminent parfois les étoiles filantes. Et tout en haut de cette mésosphère, il y fait guère plus de moins 80 degrés. Et vient ensuite la thermosphère, donc, que j'ai citée tout à l'heure, jusqu'à 600 km en moyenne. Là, c'est le royaume des stations spatiales, des Starlink et des satellites GPS. Thermos, car ici, plus on monte et plus il fait chaud, bizarrement. Parce qu'en fait, on est moins protégé par le rayonnement solaire. Les quelques atomes qui traînent là-haut peuvent monter à plusieurs centaines de degrés. Mais ils sont si peu nombreux que si nous nous y trouvions en maillot de bain, on ressentirait un petit 25 degrés. Chaque molécule, chaque atome est vraiment chaude, mais il y en a si peu. Et au-delà, c'est l'exosphère, l'exos, l'étranger, le lointain, où le nombre de particules dans un mètre cube se compte plus que sur les doigts de la main. Et là, on peut clairement commencer à dire qu'on est dans l'espace. L'exosphère, pareil, ça n'a pas vraiment de fin. Il y en a qui la donnent à 1000 km, mais parfois même jusqu'à 5000, 10000 km. Même en fait, sur la Lune, autour de la Lune, on peut retrouver des petits bouts d'atmosphère terrestre, une petite particule par-ci, par-là, qui passe.
Qui voyage.
Qui voyage, ouais, c'est ça. Dans l'exosphère, ils circulent vraiment librement, ils sont presque plus soumis à la gravité terrestre. Et il y en a même qui n'hésitent pas à dire que la fin de l'atmosphère terrestre, c'est là où commence l'atmosphère solaire, et avec une limite plusieurs millions de kilomètres, du coup. Voilà une très brève description des couches de l'atmosphère qui nous surplombent. Et si le cœur m'en dit, eh bien je vous développerai ça un petit peu plus la semaine prochaine.
Oui, merci Axel. On va enchaîner avec la chronique fantastique, et ça tombe bien puisque moi je vais vous parler plutôt de l'atmosphère de Vénus.
Allez, parfait.
Alors, chronique fantastique, hein, comme je l'ai dit, c'est l'idée de vous présenter un petit peu une œuvre de fiction, que ce soit un livre, un film, voilà, ce qui nous passe par la tête. Et donc là, cette semaine, je vous parle d'un roman qui s'appelle « Le Sultan des Nuages » et qui a été écrit par Geoffrey Landis. Alors, on va voir, ça se passe effectivement dans l'atmosphère de Vénus. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'auteur. Geoffrey Landis, il est né en 1955 à Détroit, et lui en fait c'est à la base c'est pas un écrivain, c'est un scientifique américain qui travaille à la NASA, et il travaille sur les programmes d'exploration de Mars et de Vénus et sur les techniques qui sont associées à ces explorations. En particulier, il a lui-même breveté 8 modèles de cellules solaires, de dispositifs photovoltaïques. Donc, c'est plutôt un ingénieur, en réalité, ouais. Du spatial. Ouais. Il organise aussi des conférences. Il donne des conférences sur la possibilité des voyages interstellaires et sur aussi les possibilités d'établir des bases sur Mars et sur la Lune. Donc, il est aussi auteur de science-fiction, qui a été d'ailleurs récompensé par plusieurs prix. Alors, il n'a pas une énorme production. Il a commencé en 1989 avec une nouvelle qui s'appelle « Quelques rides sur la mer de Dirac ». J'ai trouvé le titre, j'ai envie de vous le lire. Il a publié des recueils de nouvelles, etc. Et sinon, il a fait 2 romans. Donc, en 2000, un premier qui s'appelle « Mars Crossing », qui a eu le prix Locus. Et donc, « Le Sultan des Nuages », en 2010, qui a eu le prix Théodore Sturgeon en 2011. Donc voilà pour l'auteur. Alors, ce roman, il se passe sur Vénus. Et donc, je vais parler un petit peu d'abord de l'atmosphère de Vénus, pour qu'on puisse comprendre un peu. Puisque ce monsieur étant un scientifique et un ingénieur, il a en fait décidé d'appliquer certaines idées de la science à un récit imaginaire. Pour la décrire un peu, cette atmosphère de Vénus, à la surface de Vénus, il fait un peu moins de 500 degrés. Et on a une pression de 93 bars, c'est-à-dire 93 fois la pression atmosphérique terrestre à la surface. Donc c'est écrasant. Ouais.
Il fait lourd, quoi.
Il fait lourd, il fait chaud. voilà. Donc, et il y a aussi, donc, dans l'atmosphère, des nuages opaques d'acide sulfurique. Donc, il y a pas mal des gouttelettes d'acide sulfurique qui forment des nuages. Je les mentionne parce que c'est à cause de ces nuages-là qu'on ne peut pas observer depuis la Terre le sol de Vénus. Souvent, on vous dit, Vénus, bon, on ne l'observe pas trop au télescope, en fait, parce que déjà, elle est très brillante. Donc, en fait, il y a beaucoup d'aberrations chromatiques, de choses comme ça. On voit des couleurs qui, en fait, n'ont rien à voir avec les couleurs réelles de la planète. Et puis, la seule chose qu'on peut voir, c'est éventuellement des croissants. Elle fait des phases, un peu comme la Lune. Mais on ne peut pas voir sa surface. Et c'est à cause de ces nuages d'acide sulfurique qui sont opaques. Alors, la composition de cette atmosphère, c'est principalement du CO2, du dioxyde de carbone. Et là, quand je dis principalement, en fait, c'est 96,5%.
Ah oui.
Et il reste du diazote, comme sur la Terre, mais là où sur la Terre on en a presque 80%, ouais, là il y en a 3,5%. Et on a aussi des vents à la surface là, qui se promènent à 100 mètres par seconde.
Oui, c'est énorme.
100 mètres par seconde.
Ouais,
on est à un tiers de la vitesse du son.
Ouais.
Bon. c'est vraiment très, 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 très rapide. Ça fait 3600 km.
Quand on parle là, ça me... Il n'y a pas de tempête avec des changements de... C'est comme sur Jupiter, on voit des tempêtes, des ouragans, des trucs comme ça. Mais sur Vénus, il n'y a pas ça. C'est l'impression que c'est beaucoup plus homogène.
Je n'en sais rien.
Ouais.
En tout cas, on ne voit pas de taches dans l'atmosphère de Vénus. Mais en fait, on ne voit rien du tout de Vénus. En fait.
Ouais,
je pense
rien.
C'est parce que c'est trop homogène. Ouais. Comme tu disais, c'est 96% de CO2.
Oui, 96. Ouais, c'est ça.
Sur Mars, on peut voir des tempêtes, des trucs comme ça. Mais... Vénus, ouais, c'est...
Sur Mars, des tempêtes de sable plutôt, c'est pas
de sable. Vraiment
de sable,
c'est
pas du gaz. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Sur Jupiter, c'est un peu différent. J'avais fait une émission sur la grande tache rouge de Jupiter. C'est aussi, déjà, c'est pas complètement clair d'où vient cette couleur.
Ah ouais,
tu vois, c'est, y a plusieurs idées, plusieurs hypothèses. Bon, c'est sûr qu'a priori, c'est l'idée que c'est un composant différent, une question de composition, mais ce n'est pas super clair non plus. Là, effectivement, on a une atmosphère qui est plus homogène. On peut je ne sais pas la dynamique de cette atmosphère. Ce qui est sûr, c'est que les vents, ils sont très, très violents. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y ait des cyclones ou des choses comme ça. Mais ça, voilà.
Et pour ajouter que Vénus, tournant très lentement sur elle-même, le vent peut faire un tour de la planète avant qu'elle-même ait fait un tour.
Mais même largement, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle, elle est en hyper-rotation, l'atmosphère de Vénus. C'est-à-dire que l'atmosphère elle-même fait un tour en 4 jours. Là où Vénus, c'est 270 jours terrestres, je crois. Non, en fait, la Vénus, elle tourne quasiment, c'est un peu comme la Lune, quoi. Elle tourne quasiment sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour du Soleil. C'est comparable.
Oui, il y a 30 jours d'écart.
C'est ça, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est cette atmosphère-là qui est quand même assez, assez radicale.
Voilà le décor,
mais il y a quand même une chose intéressante dans cette atmosphère, c'est que si on va cette fois, non pas au sol, mais à 50 km d'altitude, 50 km au-dessus de la surface, là, en fait, on se retrouve avec des températures et des pressions qui sont très similaires à celles de la Terre. Et en fait, même, c'est l'endroit de tout le système solaire où les conditions sont les plus proches de la vie sur Terre. C'est à 50 km en altitude dans l'atmosphère de Vénus. C'est même mieux que Mars, en fait. Même plus confortable que Mars pour éventuellement faire une base. Donc, en fait, c'est des idées qui ont été proposées de faire des bases à 50 km dans l'atmosphère de Vénus. Alors, comme tu l'as dit, l'atmosphère terrestre, elle est composée de... en gros, c'est 21% d'oxygène, 78% d'azote. Donc, si on regarde ça et qu'on compare avec l'atmosphère de Vénus, qui est donc, comme j'ai dit, 96% de CO2 et 3,5% d'azote, le CO2, hein, c'est dioxyde de carbone, c'est un gaz qui est plus lourd que le dioxygène ou que le diazote.
Ah ouais.
Donc, en fait, on se rend compte que l'atmosphère, si on imagine un ballon rempli d'air terrestre, eh ben, il va flotter, il va même s'élever, en fait. Il va avoir un phénomène de portance, un effet de portance. Okay. Comme sur Terre, on a un effet de portance avec l'hélium, puisque quand on gonfle un ballon d'hélium, il s'envole. Ouais. Eh ben, ça va être la même chose, en fait, si on gonflait un ballon d'air terrestre sur l'atmosphère de Vénus, il va rester en l'air, quoi. Et donc ça, bah, c'est le principe d'Archimède, au final. Hein. C'est quand même ça, je le rappelle, parce que le principe d'Archimède, on a l'habitude de dire tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. Mais enfin, bon, tout corps plongé dans l'eau, en fait, subit une force verticale dirigée vers le haut et d'intensité égale au poids du liquide déplacé. Donc c'est sûr que, par exemple, si vous... en fait, ce qui est important, c'est pas tant la densité, enfin le poids, la masse de l'objet. Ce qui est important, en fait, c'est sa forme et son volume, en réalité. Et après, il faut comparer le poids de cet objet avec le poids du liquide déplacé. Si le poids de l'objet, il est supérieur au poids du liquide déplacé, ça coule. S'il est inférieur, ça flotte.
C'est comme un bateau.
Exactement. Et ben, c'est un principe, en fait, qui est valable dans tous les fluides. C'est valable dans les liquides, mais c'est valable dans les gaz. Et donc, sur ce principe-là, il y a l'idée de construire, en fait, des stations dans l'atmosphère, qui soient remplies dans l'atmosphère de Vénus, qui soient remplies d'atmosphère terrestre. Ben, pourquoi ? Pour que les humains puissent y vivre et qui donc, en fait, flotteraient. Et donc, c'est l'idée de départ du Sultan des nuages de Geoffrey Landis, où il imagine des cités flottantes dans l'atmosphère de Vénus. Alors lui, il les imagine transparentes aussi, puisqu'à cette altitude, en fait... Alors, il y a quand même cette idée des nuages d'acide sulfurique dans la réalité, qui ne sont pas mentionnés dans le livre.
Okay.
Et je pense que techniquement, il faut quand même imaginer que ce n'est pas forcément évident à réaliser. Parce que l'acide sulfurique, c'est quand même un acide extrêmement violent, qui a quand même tendance à attaquer beaucoup de choses. Quoi. Donc, il faut d'une façon ou d'une autre se protéger de cet acide sulfurique. Il a botté en touche.
Est-ce qu'on flotte au-dessus
En fait, on flotte à peu près dans la, à la même altitude que ces nuages, justement. Donc, c'est là qu'il y a un petit truc un peu... Bon, voilà, il l'a mis un peu sous le tapis, mais c'est pas grave. En tout cas, cette idée de cité flottante, il la développe. Et il imagine une histoire. Alors, je ne vais pas non plus vous spoiler le roman. Je ne vais pas tout vous raconter, sinon ce n'est pas sympa. Mais même s'il y a peu de chances que vous le lisiez, mais bon. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a, une spécialiste donc en terraformation martienne, accompagnée d'un technicien qui est plus ou moins amoureux d'elle, bon, parce qu'il y a, voilà, il y a un petit mélange d'histoires, qui, en fait, elle est invitée par le sultan des nuages, qui est en fait le plus riche de tous les gens qui ont des cités flottantes. Parce que voilà, ces cités flottantes, c'est un peu comme des mini-royaumes. Oui. Et lui, il en possède plein. Et il y a aussi des cités flottantes qui sont indépendantes, voire qui contestent un peu l'autorité du sultan, etc. Et donc, voilà. Et eux, ils sont invités. Elle est invitée par le sultan à cause de ses compétences en fait en terraformation martienne. Et donc voilà, on apprend petit à petit que le sultan, il a un plan, donc je ne l'ai pas révélé, mais en gros il a un plan pour dominer toutes les autres cités, pour devenir vraiment le grand nabab de Vénus. Et il compte un peu sur elle là-dessus. Il y a toute une histoire aussi avec une résistance donc de gens qui sont contre ce sultan. Il y a une histoire de mariage aussi, parce qu'on assez vite on apprend que le sultan a pour but en fait d'épouser cette femme pour différentes raisons. Voilà. Alors en réalité, d'un point de vue littéraire, faut être honnête, c'est pas fantastique. C'est le style. Et bon, après c'est une traduction, mais le style est quand même pas flamboyant. L'intrigue est quand même légère, et la psychologie des personnages, c'est pas non plus vraiment ça. Donc voilà, je me permets quand même de le dire, je donne mon avis aussi. Oui. Bon, ce que je trouvais intéressant, c'était... par contre, voilà, je trouve le point fort du livre, c'est qu'il est assez court, hein, il fait moins de 100 pages. En moins de 100 pages, au final, il arrive quand même à poser ce petit monde sur Vénus. Mmh. Et cette petite imagination là, des cités flottantes. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a une idée quand même qu'il a, que je ne sais pas d'où il la sort, mais que je vais quand même vous partager. C'est que sur Vénus, les gens, en fait, au cours de leur vie, vont se marier deux fois. Donc, c'est-à-dire qu'ils se marient une fois quand ils sont en gros adolescents, donc vers 13 ans, 13-14 ans, mais avec quelqu'un qui va en avoir 30 ou 40. Mmh. Et ensuite, quand eux, ils auront... quand ils auront ensuite 50 ou 60 ans, ils vont ou quand ils arrivent à l'âge adulte, en fait, voire un peu dépassé, vers 50 ans, ils vont eux-mêmes se marier, en fait, avec quelqu'un de plus jeune. Okay. Donc c'est un peu, enfin, je sais pas, c'est un très bizarre son idée. Il y a le haut, ils appellent ça le haut mariage et le bas mariage. Donc l'idée que d'abord, en fait, on est marié à quelqu'un de plus vieux que nous, qui va un peu nous apprendre la vie, et qu'ensuite, mais on reste marié, hein, même au moment du deuxième âge. Donc il y a une phase de la vie où, en fait, chaque personne, chaque homme a deux femmes et chaque femme a deux hommes, mais deux générations différentes, en fait. Ah, oui. Ouais, c'est un peu étrange. Et qu'ensuite, une fois qu'elle a mûri, va pouvoir en fait épouser quelqu'un de plus jeune qui va pouvoir former. Je vous partage cette idée. Chacun pensera à ce qu'il voudra. En tout cas, en tombant dessus, j'étais un peu étonné. Je sais pas où il a pêché ça.
Ouais, pourquoi pas.
Bref, voilà pour cette petite histoire du sultan des nuages. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver. C'est aux éditions Bélial. Et je vous dis, littérairement, c'est pas génial. C'est quand même. Enfin, je sais pas, quand on pense par exemple à des gens comme Simak, qui était ingénieur aussi. Clifford Simak, à l'occasion peut-être j'en parlerai, mais qui est quand même un grand auteur de science-fiction. Oui. On est quand même sur un autre niveau. Quoi. Donc c'est pas parce que c'est un scientifique que forcément il est nul en littérature. Enfin, je veux dire, il pourrait être bon. Mais voilà, c'est. Pas forcément le cas. En tout cas, l'idée est intéressante, hormis cette histoire d'acide sulfurique, là, que je ne sais pas trop comment il faudrait résoudre ça. Mais l'idée de ville flottante comme ça dans l'atmosphère de Vénus, je trouve que ça fait un peu rêver quand même.
Il y a un départ dans le livre, il y a un moment où il explique comment ils en sont arrivés à faire
ces cités flottantes. Oui, c'est daté, on sait depuis combien de temps ils y sont.
Pas plus que ça. Okay.
C'est vraiment l'histoire qui commence avec...
L'histoire commence, les cités, elles sont là, il y en a plusieurs milliers.
Ah oui, plusieurs milliers.
Et lui, il en contrôle des centaines, et il y en a quand même quelques-unes qui sont indépendantes. En fait, même le nombre des cités n'est pas connu.
Ah ouais,
ça, c'est... Même lui-même n'en sait rien.
Ok. Bon.
Voilà pour cette petite chronique, j'avais envie de vous partager ça. En fait, voilà, pour résumer, moi ce livre, j'en avais entendu parler parce que, de par sa thématique, sur oui. Bah, justement ce lieu quand même particulier du système solaire où bah, à 50 km au-dessus du sol de Vénus, on a des conditions qui sont très proches de celles de la Terre. Je trouve que ça, c'est quand même intéressant à voir ce qu'on en fait dans l'avenir ou pas. Donc j'ai eu envie de lire ce roman et bon, concrètement, j'ai été assez déçu par le livre, mais il a le mérite d'exister et comme je dis, en moins de 100 pages, de poser quand même un petit univers. Voilà pour cette première chronique fantastique. Et sur ces bonnes paroles, on va vous laisser à vos observations en espérant qu'elles seront belles. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Eh oui, salut.
Salut, bon dimanche.